France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Elles ont du mal à lire, écrire, compter, parfois même à faire leurs lacets. Ce sont des personnes qui souffrent de troubles 10, D-Y-S. Le plus connu est la dyslexie, mais il y a aussi la dyspraxie ou la dysphasie. Bonjour Nathalie Gros.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de la Fédération française des 10, fédération qui a créé une journée nationale pour mettre un coup de projecteur sur ces troubles du langage et de l'apprentissage en cette journée. Cette journée, c'est aujourd'hui, le 10 octobre, le 10-10. Combien de personnes souffrent de troubles 10 en France ?
1 million d'enfants sont touchés par les troubles 10, soit 6 à 8%.
Et comment on détecte, comment on sait qu'un enfant souffre de dyslexie par exemple?
La dyslexie, c'est un trouble du langage écrit, donc soit la lecture ou l'écriture. On parle plus communément de la dysorthographie. Donc là, la dyslexie se détecte plus à partir de la grande section, il y a des signes. Le CP, bien sûr, on rentre dans l'apprentissage de la lecture, et on dit qu'il faut à peu près vers l'âge de 8 ans.
Mais c'est les parents, c'est les enseignants qui se rendent compte? Oui, quels sont les signes pour essayer de détecter ça?
8 fois sur 10, les parents ont des doutes, notamment le soir, au moment des devoirs, où ça bute, ils n'arrivent pas à faire les devoirs de lecture. C'est pas fluide. Et les enseignants voient que la lecture, à la fin du premier trimestre du CP, ça démarre pas.
Et donc après,
c'est les premiers signes.
Et après, on va chez le médecin pour vérifier, c'est ça?
Après, on attend un petit peu, on va dire, le cours du CP. On va voir son généraliste pour voir s'il n'y a pas autre chose, si l'enfant entend bien, voit bien, s'il n'y a pas un autre élément qui empêcherait. Et ensuite, le médecin oriente souvent vers une orthophonie pour la dyslexie.
Tous ces troubles 10, ça apparaît forcément dès les premières années ou on peut devenir dyslexique à 45 ans, par exemple?
Non, on est 10, c'est un trouble neurodéveloppemental, et pour la dysphasie, qui est le trouble du langage oral, c'est beaucoup plus tôt, puisque c'est pour parler. La dyspraxie, c'est également plus tôt, avant de rentrer à l'école, et la dyslexie, c'est vraiment au moment où on rentre dans les apprentissages que ça se manifeste.
Et alors, ce qui m'a étonnée, c'est que j'ai vu que c'était très récent, finalement, que ces troubles ont été reconnus en France, reconnus tout simplement, et reconnus même comme un handicap, ça date d'une dizaine d'années seulement.
2001 avec le plan Ringard-Weber.
Et 2005 pour
la reconnaissance pour le handicap cognitif.
Et ça apporte quoi, ça?
Ça apporte une reconnaissance.
Une prise en charge?
Une prise en charge orthophonique, en soins.
Ça veut dire que les consultations sont remboursées?
Alors, l'orthophonie est remboursée. L'ergothérapeute, le psychologue et le psychomotricien n'est pas remboursé, hélas. Donc, il y a un reste à charge pour les familles. C'est là le problème. Pour démarrer très tôt les prises en charge et aider ces enfants.
Est-ce qu'il y a du mieux à faire encore? Est-ce qu'il y a des progrès à faire en matière de prise en charge au-delà des remboursements? Est-ce qu'il y a suffisamment de professionnels? Est-ce qu'ils sont suffisamment bien formés?
Le point faible, c'est qu'en France, dans les formations initiales, les généralistes ne sont pas formés. Les orthophonistes sont formés par définition, mais tous les médecins ne sont pas formés. Et deuxièmement, les enseignants ne sont également pas formés suffisamment pour accompagner et adapter leur pédagogie.
Et donc, du coup, comment ça se passe à l'école? Comment se comportent les enseignants, généralement, quand ils ont face à eux des enfants 10?
Alors, ils commencent depuis 2001, ils essayent, ils font au mieux. Mais face à eux, ils ont chaque fois un cas particulier. Il y a des besoins vraiment spécifiques
selon
pour chaque
trouble, en plus.
Voilà. Et comme c'est pas simple, souvent, un trouble est associé à un autre trouble. C'est pas rare qu'un dyslexique soit aussi dyspraxique ou un dysphasique dyslexique. Donc, ça complique un petit peu les choses. Mais il y a des aménagements pédagogiques connus qui ont du mal à être mis en place par manque de temps, parce que c'est compliqué, les classes sont, il y a beaucoup d'élèves, voilà les prétextes qu'on nous dit. Mais il y a des choses qui existent.
Mais les enfants peuvent suivre une scolarité classique ou il faut qu'ils aillent dans des établissements spécialisés? Non, ils peuvent aller à l'école avec tout
le
monde.
La majorité sont dans un cursus ordinaire.
Est-ce qu'il y a encore des gens qui pensent, par exemple pour un dyslexique, que en gros c'est juste quelqu'un qui sait pas lire, quoi, qui sait pas bien lire et il a qu'à travailler davantage et ça ira? Il y a encore des gens qui pensent ça?
Oui. Et pire, il y en a qui pensent que c'est encore psychologique.
Comment ça se passe aussi pour les examens? Est-ce qu'il y a des aménagements possibles ou pas?
Oui, il y a des aménagements. Il ne faut pas le réduire au tiers-temps, le fameux temps supplémentaire. Il y a d'autres choses.
Quoi,
et là, c'est le parcours du combattant.
Quoi,
c'est le parcours du combattant pour accéder aux soins, puisque l'orthophoniste c'est difficile à trouver dans certains, à 50 km de Paris, il faut 18 mois pour en trouver une. Donc déjà, c'est le parcours pour savoir exactement ce qu'a l'enfant. Et ensuite, une fois qu'il a, on sait ce qu'il a, qu'on a des bilans, il faut encore se battre pour pouvoir avoir les aménagements le jour des examens. Il faut encore prouver qu'on est bien dyslexique, dyspraxique ou dysphasique.
Oui, parce que le problème, c'est que ça se voit pas, c'est un handicap invisible.
Voilà.
Donc quand on arrive dans une salle d'examen, si on n'a pas le petit papier qui prouve qu'on souffre de ce trouble, on ne peut pas bénéficier de l'aménagement.
C'est encore plus compliqué. Il ne suffit pas d'avoir le papier. S'il n'y avait que le papier qui dit ouais. Bon, je certifie...
Il est difficile à voir parce qu'il y a des zones blanches médicales.
Voilà. Et non, mais après, il y a un dossier à remplir. Vous savez, l'administration en France est assez complexe. Il faut remplir des tas de dossiers qui est étudié par des médecins. Qui vont juger si les aménagements sont possibles ou pas pour le jour de l'examen. Alors que là, ces jeunes bénéficient soit d'un plan d'accompagnement personnalisé, soit un projet personnalisé de scolarisation tout le long de l'année. Mais le jour de l'examen, c'est pas sûr qu'ils y ont droit. Parce qu'il y a encore un réexamen pour voir s'il a vraiment droit, en fait. Enfin, on tourne en boucle, hein.
Est-ce que les nouvelles technologies, les outils numériques, ça leur facilite la vie? Est-ce qu'il y a des petits plus pour leur permettre de lire plus facilement ou de progresser davantage?
Oui. Alors, depuis récemment, ça s'appelle Acception Handicap, l'accès à la source numérique est possible. C'est en train d'arriver, vraiment à mettre en place. Aujourd'hui, à Paris, à la journée des 10, on va en parler, une table ronde qui va traiter ce sujet avec des éditeurs. Il faut que ça arrive à l'école. Il faut que ça arrive encore à l'école. Il faut que ça arrive le jour de l'examen pour avoir des supports numériques pour que les jeunes puissent...
Donc ça existe, mais c'est pas développé encore.
Voilà, pas encore. Ça. Pas bien.
Est-ce qu'on sait d'où viennent ces troubles?
L'origine est neurodéveloppementale, donc c'est le fonctionnement du cerveau. Il n'y a pas d'origine. On parle de génétique, mais bon, 5 gènes pourraient être à la cause, mais ça touche toutes les classes sociales. Il n'y a pas d'effet environnemental particulier. C'est surtout un fonctionnement du cerveau qui est un peu différent. En gros, au lieu d'emprunter une autoroute, le cerveau il emprunte une départementale pour traiter l'information. Voilà.
Merci beaucoup Nathalie Gros, présidente de la Fédération française des 10, DYS. Merci d'avoir été l'invitée, d'être venue ce matin sur France Inter pour être l'invitée du 5-7. Et je rappelle donc que cette journée nationale des 10 va lancer toute une semaine en fait de mobilisation et d'activité dans toute la France. C'est bien ça?
C'est exactement ça. Lyon, Marseille, 2000 personnes sont attendues à Lyon.
Merci beaucoup Nathalie Gros.
Merci à vous
d'être venue ce matin.